Bien, bonjour. Donc nous sommes dans cet endroit un peu plus convivial que le très grand amphi, et donc créé en relation plus directe. Donc je reprends aujourd'hui la suite de ce thème. Vous vous rappelez, le thème de l'ensemble, c'est « Textes sans frontières », une attention particulière à des œuvres ou des textes qui ont circulé au-delà de leur lieu de production et au-delà de la langue dans laquelle ils ont été écrits. Et la fois dernière, j'avais analysé un premier versant de ce type de question qui était une sorte d'analyse des espaces du livre avec un retour sur les différentes manières à travers lesquelles l'histoire du livre a pu définir, découper, délimiter ces objets, et puis d'entrer dans une analyse de ces différentes manières, les histoires nationales, les monographies et les histoires, comme on dirait maintenant, connectées, comparatistes ou transatlantiques. Aujourd'hui, je voudrais continuer cette analyse, non pas en entrant, en quelque sorte, dans les livres et en traçant les contours d'une géographie littéraire. La référence fondamentale, qui est un point d'appui, parfois discutable, mais qui est un point d'appui très important, est un livre d'un collègue italien, mais qui enseigne à l'Université de Los Angeles, Franco Moretti. C'est un livre publié en 1999 qui a pour titre en anglais « Atlas of the European Novel, 1800-1900 » et qui a été traduit au seuil en 2005, « L'Atlas du roman européen 1800-1900 », donc centré sur le 19e siècle. Là, ce qui est intéressant dans l'approche de Moretti, c'est de définir en quelque sorte une double de donner une double acception à l'expression de géographie littéraire. D'un côté, la géographie littéraire, c'est l'espace historique de la circulation des œuvres. Et là, nous avons un rapport avec ce que je disais jeudi dernier. Et l'autre aspect, c'est l'espace à l'intérieur de la fiction, c'est-à-dire comment, dans le texte lui-même, sont déployés des espaces, des itinéraires, des trajectoires, et nous le verrons aujourd'hui aussi, parfois, des cartes. Je vais prendre comme exemple, cela ne surprendra personne, pour illustrer ces deux approches, c'est-à-dire l'approche de ce qu'il appelle « literature in space », la littérature dans les espaces de sa circulation, et ce qu'il appelle « space in literature », c'est-à-dire les espaces qui sont internes à l'œuvre. Je vais prendre l'exemple, évidemment, de Cervantes, et avec une attention portée sur Don Quichotte et sur les nouvelles exemplaires. Don Quichotte, je le rappelle, la première partie qui n'en était pas une, parue en 1605 à Madrid, et la seconde partie en 1615 à Madrid. Et les nouvelles exemplaires parues en 1613 à Madrid. L'intérêt n'est pas seulement parce que je travaille beaucoup sur le Quichotte, mais d'une part parce que dans le Quichotte lui-même, on va le voir, il y a l'inscription, et dans les nouvelles exemplaires peut-être encore plus, l'inscription d'espace fictionnel, et que d'autre part, sans doute ce sera le thème de la semaine prochaine, à la fin du XVIIIe siècle, sont introduites dans deux éditions de Don Quichotte des cartes géographiques qui sont montrant le supposé voyage ou trajectoire, las dos salidas, de Don Quichotte, ou même les trois sorties, puisqu'il y en a deux dans la première partie et la seconde partie tout entière. Alors, au point de départ, suivant donc cette idée de l'espace dans le livre et de l'espace du livre, ou de l'espace dans l'œuvre et de la circulation géographique de l'œuvre, on peut s'attacher en un temps, en un premier temps, sur la circulation du texte dans sa forme la plus immédiate, c'est-à-dire des éditions, soit des éditions dans sa langue originale, l'espagnol, soit des éditions dans ses traductions. Et ici, on peut établir une distinction entre ce qui serait le temps court de la réception de l'œuvre et la longue durée de sa présence à travers les traductions, et j'y reviendrai, un thème qui me paraît important, les retraductions. Quand, à un moment du temps, on pense qu'il est urgent, nécessaire de retraduire un livre qui a déjà été traduit. Alors, commençons avec Don Quichotte. Le temps court de l'œuvre et de sa première réception est en quelque sorte inscrit dans l'œuvre elle-même, avec au commencement de la seconde partie, au chapitre 3, ce que le bachelier Sanson Carrasco, qui revient de Salamanque, où il a fait ses études, compte à Don Quichotte à propos de la circulation du livre, première partie, qui narre ses aventures ou mésaventures. Et Sanson Carrasco commence en disant, dans ce dialogue avec Don Quichotte, le personnage confronté avec Don Quichotte, le livre, « Lui soit-ci de Amete ben Angeli », vous vous souvenez sans doute qu'à partir du chapitre 9 de la première partie, le texte est supposément une traduction en espagnol d'une chronique historique écrite par un historien arabe, Sidi Amete ben Angeli. Loué soit Sidi Amete ben Angeli, qui a couché par écrit l'histoire de vos exploits, ceux de Don Quichotte, et deux fois loué l'érudit, qui a pris soin de le faire traduire de l'arabe en bon castillan, pour le plus grand plaisir des populations. Donc on revient à ce dispositif narratif qui a été installé par Cervantes à partir de, entre les chapitres 8 et 9 de la première partie. Un texte découvert par hasard, écrit en langue arabe et traduit par un traducteur morisque en castillan. Don Quichotte le fit relever et lui dit « Il est donc vrai qu'il y a une histoire sur moi et que c'est un enchanteur maure qui l'a composée ? C'est tellement vrai, Seigneur, dit Samson, que je suis persuadé qu'à ce jour, on a déjà imprimé plus de 12 000 exemplaires de cette histoire. À ce jour, 1615, date de la publication de la seconde partie, et l'espace considéré, celui des 10 années qui se sont écoulées depuis la publication du livre en 1605, première partie. À preuve, s'il le fallait, le Portugal, Barcelone et Valence, où elle a été imprimée, et encore le bruit court qu'on l'imprime à Anvers. Quant à moi, dit Sanson Carrasco, j'ai dans l'idée qu'il n'y aura ni nation ni langue qui ne la traduise, cette histoire. On voit donc qu'il y a là, dans le texte, une désignation de sa circulation, du moins de sa première partie, et au-delà des inexactitudes volontaires ou non, de la part de Cervantes, il y a une plausibilité très forte de cette idée de 12 000 exemplaires circulant de la première partie du Quichotte au moment où est publiée la seconde. La liste ne mentionne pas évidemment les lieux de la madrilène des premières éditions, deux en 1605 et une en 1608. Portugal renvoie aux deux éditions publiées à Lisbonne en 1605, la première année de la circulation du livre, et Valence, Valencia, renvoie à une cinquième édition de l'année 1605 publiée à Valence. Mais à l'époque, il n'y a pas d'édition à Barcelone, et Sanson Carrasco omet l'édition de Milan de 1611, et il confond Bruxelles, où une édition, deux éditions sont publiées en 1607 et 1611 avec Anvers, qu'il cite dans son énumération. On voit que cette première géographie, avec les cinq éditions de la première année, trois à Madrid, deux à Lisbonne, une à Valence, et ensuite les éditions qui se déploient jusqu'à 1615, est une géographie des territoires soumis à l'autorité du roi de Castille et d'Aragon, et depuis 1580, de Portugal. Et c'est une donnée importante, puisque la monarchie espagnole est une monarchie composite, qui est faite de la juxtaposition dans le même souverain de différents royaumes. Et le roi d'Espagne, entre guillemets, est roi de Castille, d'Aragon, de Navarre et, entre 1580 et 1640, de Portugal. Et c'est ce qui explique sans doute cette anomalie d'édition à Lisbonne et deux et une à Valence en 1605, c'est le fait que le privilège demandé par Cervantes et accordé par le roi pour l'édition à Madrid est un privilège limité à, comme dit le texte, « nuestros reinos de Castilla », nos royaumes de Castille. Ce qui fait que des libraires éditeurs de Lisbonne, ou évidemment pour une publication en espagnol, et un libraire éditeur de Valence, Felipe May, ne se sentent pas tenus par ce privilège qui ne vaut que pour le royaume de Castille. C'est ce qui explique aussi pourquoi, dans la deuxième édition madrilène, en 1605, le libraire Robles prend la précaution de demander l'extension du privilège à la fois à l'Aragon, ce qui était, couvrait la ville de Valence, et au Portugal, avec un privilège particulier pour le Portugal. Et du coup, pour essayer de briser ces sortes de cette manière de contrefaçon qui n'en était pas, puisque finalement, le premier privilège ne valait que pour la Castille. 12 000 exemplaires est un chiffre plausible dans la mesure où les textes du temps, et en particulier un texte d'un imprimeur de Madrid que j'ai souvent utilisé dans ses cours, Alonso Victor de Paredes, indiquait que le tirage moyen d'une édition est de 1250 ou 1500 exemplaires. Ce qui explique que pour ces périodes, un des indices qui nous permet de mesurer le succès d'une œuvre est évidemment, non pas comme on le ferait à partir du 19e ou 20e siècle, le tirage premier du texte, mais le nombre des rééditions. Si l'on admet que ce chiffre de moyen, on ne le sait pas, puisque les archives manquent, pour Don Quichotte, 1605 était de 1500 exemplaires, on aurait 13500 exemplaires qui auraient circulé en espagnol, en castillan. Et si l'on admet un tirage moyen, ce qui était le tirage moyen aussi chez les Plantin Moretus à Anvers, au milieu du XVIe siècle, de 1250 exemplaires, on aurait 11 250 exemplaires qui auraient circulé. On a donc là le temps bref, le temps court de la première circulation de l'œuvre mesurée dans l'œuvre elle-même, dans la seconde partie de ce texte publié donc pour sa première partie en 1605. On peut penser au temps court des traductions, puisqu'il y en a déjà deux qui ont été publiées avant 1615. Et lorsque Samson Carrasco dit « Quant à moi, j'ai dans l'idée qu'il n'y aura ni nation ni langue qui ne la traduise, donc cette histoire », il sait ou non, mais peut s'appuyer sur l'idée que la première traduction de la première partie du Quichotte a été publiée en 1612 à Londres, traduction d'un catholique, Shelton, et prise en charge par un libraire-éditeur, Blount, qui est un personnage intéressant puisqu'il était aussi celui qui a publié en anglais la traduction des Essais de Montaigne et que d'autre part, il a été un des libraires-éditeurs qui ont participé au consortium qui a publié l'édition folio de 1623 des œuvres de Shakespeare. Un libraire-éditeur avec beaucoup d'autres œuvres contemporaines ou récentes dans son catalogue et fondamentalement en traduction, comme le père d'Acosta, par exemple, qui traduit une politique éditoriale qui est celle de la nouveauté européenne. Et d'autre part, en 1614, a été publiée la première traduction française, celle de César Houdin. Et peu de temps après la publication de la seconde partie, seront publiées, avec un ordre inversé, les traductions françaises de la seconde partie, 1618, et la traduction anglaise de la seconde partie, 1620. On a donc un commencement de réception à travers la circulation, non seulement en castillan, mais aussi en français et en anglais. Et si l'on suit, Franco Moretti l'a dessiné dans son livre, même si son livre porte fondamentalement sur le XIXe siècle et le roman du XIXe siècle, la référence au Quichotte y est présente, donc il a dessiné à gros traits une carte dynamique des traductions. On voit qu'il y a une première période qui commencerait donc en 1612 avec la traduction anglaise pour s'achever en 1656 avec la traduction hollandaise à Dordrecht. Et entre ces deux dates, la traduction française, comme je le disais, mais aussi les traductions italiennes, Venise, 1621, et la traduction allemande à Francfort en 1648. Donc une Europe occidentale qui, en un demi-siècle, traduit dans cinq langues le Quichotte de Cervantes. Et l'édition d'Ordrecht en 1656 est importante puisque c'est la première à avoir une série d'illustrations à l'intérieur du texte. Mais si on prolonge ici non plus le temps court de la première réception, mais le temps long des traductions d'une œuvre qui devient une des œuvres fondamentales du canon littéraire mondial, on voit qu'il y a deux autres temps importants à considérer. La période du XVIIIe siècle, entre 1679 et 1802, un XVIIIe siècle un peu étiré, et dans lesquels le Quichotte est traduit à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler une périphérie européenne des Lumières, une traduction russe, danoise, polonaise, suédoise, donc cette Europe du Nord et qui est aussi l'Europe des princes éclairés. Et d'autre part, un cas intéressant lui-même, qui est, en 1794, la première traduction en portugais, traduction anonyme, puisque les éditions de Lisbonne, évidemment, étaient des éditions au XVIIe siècle du texte castillan. Et ce qui poserait une question intéressante pour le rapport entre ces deux langues, c'est-à-dire à partir de quand a-t-on commencé à traduire en portugais les classiques de la littérature castillane, que ce soit le picaresque, le Don Quichotte ou d'autres genres littéraires. À quel moment la perception, soit par l'accroissement du public, soit par la distance prise entre les deux langues, a rendu nécessaire la traduction en portugais de textes en castillan qui auparavant circulaient sans aucune difficulté dans le Portugal, lu par des lecteurs qui lisaient le castillan, ce qui serait la fin, en quelque sorte, d'une période historique dans laquelle les deux langues étaient à la fois connues par les Portugais de connaissance du castillan, et parfois, comme avec un auteur comme Gil Vicente, c'est des auteurs qui écrivaient dans les deux langues. Et puis la troisième géographie de cette longue durée des traductions du Quichotte, c'est fondamentalement le XIXe siècle et jusqu'au début du XXe, et fondamentalement le XIXe siècle, où l'on voit là les traductions du Quichotte non plus prises dans, comme au XVIIIe siècle, l'Europe des princes éclairés, mais prise dans l'affirmation des identités nationales, puisque l'on voit que de très nombreuses traductions dans les langues des différentes identités nationales présentes dans l'Empire russe, dans l'Empire ottoman ou dans l'Empire des Habsbourg. Donc les langues de l'Europe centrale et orientale qui s'emparent du Quichotte avec une projection de la fin du XIXe siècle sur le monde extra-européen. La première traduction en chinois est de 1872, en perse de 1876, en hindi de 1871 et en japonais de 1896. On a donc une dynamique de très longue durée avec ces trois Europes, l'Europe occidentale des cinq premières langues, l'Europe du Nord et des Lumières, plus le Portugal dans le XVIIIe siècle, et puis ensuite le Don Quichotte identifié soit à une œuvre qui a valeur universelle avec ses traductions dans les langues d'Orient, ou bien qui affirme parce qu'il existe dans le slovène ou dans le croate ou dans ces langues d'Europe centrale et orientale, peut être lié avec un sentiment d'identité nationale et donc d'abord linguistique fort. Lorsqu'on veut faire la même analyse du temps court de la première réception ou du temps long des traductions, on peut voir avec les nouveaux exemplaires, je m'attacherai seulement à la première partie, c'est-à-dire le temps court de la réception, le même modèle avec quelques variations. Ce recueil des novelas ejemplares, qui paraît donc en 1613, à première édition à Madrid, et là, l'éditeur avait été prudent, puisqu'on le privilège a été demandé pour la Castille et l'Aragon. Trois éditions en 1614, en espagnol et en Espagne, à Pamplune, avec un privilège spécifique pour la Navarre, à Bruxelles, et une édition qui a une adresse de Madrid, mais que tous les spécialistes pensent être une fausse adresse pour un livre publié soit à Séville, soit à Lisbonne. Et dans ce cas-là, on aurait effectivement affaire à une véritable contrefaçon s'il s'agit de Séville, ou à la manière d'exploiter un oubli s'il s'agit du Portugal. Puis, les éditions se succèdent en Espagne et dans les territoires de la monarchie catholique, Milan 1615, Madrid 1617, Barcelone 1625, Séville 1627. Les traductions suivent plus ou moins la même dynamique que les traductions du Quichotte, avec une différence. Première traduction en français, 1615, deux ans seulement après la publication en espagnol, et avec une collaboration entre deux traducteurs qui se sont partagés les novelas ejemplares en deux groupes de six, François Drosset, qui avait été le traducteur de la seconde partie du Quichotte, et Vital d'Audiguier. Et avant la mi-XVIIe siècle, on a une série de traductions, enfin de rééditions de ce texte, 4. Et ça s'accompagne de la présence de Cervantes dans le monde littéraire français, qui est assurée aussi dès 1618 par la traduction de ce que sans doute il considérait comme sa plus grande œuvre, qui sont les travaux de Persiles et Sigismunda, un livre publié de manière posthume en 1617, et qui, très intéressant, en 1618, est traduit en français avec deux traductions concurrentes, l'une de Rosset et l'autre d'Audiguier. Ceux qui avaient collaboré pour les nouveaux exemplaires se divisent pour la traduction des travaux de Persiles et Sigismunda, qui est le roman auquel sans doute tenait le plus Cervantes, dans la mesure où c'était le roman construit, modelé sur la grande tradition des romans hellénistiques et byzantins, avec, on y reviendra sans doute, puisque c'est un des textes dans lesquels s'inscrivent de multiples espaces de la fiction, un des textes qui est un texte en même temps d'un immense voyage. Dans ce cas-là, le sous-titre était « Historia septentrionale », une histoire septentrionale, mais qui s'achève dans la capitale de la chrétienté à Rome. La traduction italienne des novelas est la seconde, un peu décalée, 1626 à Venise, mais là aussi, trace de l'importance ou du succès de Cervantes, une autre traduction à Milan en 1629, différente. Donc là aussi, une compétition de traductions qui se met en place dans cet espace de 1626-1629. La différence avec le Quichotte est le moins d'empressement du monde anglais. La traduction est tardive, 1640, et seulement partielle. Seuls six des nouvelles sont traduites. Et cas intéressant, je n'ai jamais vraiment rencontré ailleurs, comme une sorte d'ironie sur la page de titre, le traducteur traduit son propre nom. Il s'appelait James Mabie, et sur la page de titre, il est dit que la traduction a été établie par Diego Puedeser, puisque Mabie peut se traduire par Puedeser en castillan. C'est un traducteur important, puisqu'il était le traducteur de la Celestina, l'immense tragicomedia de Rojas, qu'il a publié en 1631 sous le titre « The Spanish Bode ». Et c'est seulement en 1741 que seront traduits peut-être ce qui, pour nous, dans la tradition canonique, sont les nouvelles exemplaires les plus connus, c'est-à-dire le Colloque des chiens, et d'autre part Rinconete y Cortadillo. Rinconete y Cortadillo, parce que c'est une nouvelle qui est à l'intérieur, finalement, du genre picaresque, et le Colloque des chiens, puisque c'est ce texte dans le texte qui suppose ces conversations ou ces dialogues entre les deux chiens de l'hôpital de Valladolid. Je crois qu'on peut continuer cette analyse en pensant à ce thème peut-être négligé par l'histoire des traductions, qui est une histoire importante. Il y a de très nombreux livres ou recherches qui sont consacrés à cette histoire des traductions, parce que finalement, en premier lieu, l'histoire des traductions, c'est l'histoire des premiers lecteurs, puisque si on s'intéresse aux premiers lecteurs d'une œuvre, on peut rencontrer évidemment le scribe qui l'a copié pour en faire une copie propre, utilisable dans l'atelier d'imprimerie, mais on peut aussi copier sans interpréter. En revanche, les premiers lecteurs appartiennent soit aux procédures et mécanismes de la censure, puisque c'est eux qui doivent décider si un texte peut ou non être publié et s'il peut ou doit être amendé. On peut supposer que les libraires ou imprimeurs-éditeurs sont des premiers lecteurs dans la mesure où que certains d'entre eux ont des politiques éditoriales. Je le signalais dans le cas de Blount en Angleterre, des choix éditoriaux qui constituent une spécificité, une originalité. Et évidemment, les traducteurs sont aussi les premiers lecteurs, parmi ces premiers lecteurs, puisque là, eux, ils ont une tâche qui est de pouvoir inscrire dans un répertoire lexical ou stylistique ou esthétique une œuvre qui est venue d'ailleurs. Du coup, un intérêt pour l'histoire des traductions, mais qui néglige peut-être ce phénomène qui est l'histoire des retraductions, qui peut avoir différentes raisons, soit parce qu'une distance linguistique s'est établie entre la langue, par exemple, du XVIIe siècle et du début du XVIIe siècle et celle du fin du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Une distance qui peut être à la fois aussi une distance esthétique. On peut avoir des retraductions pour aussi l'idée d'un retour à l'original, ce qui peut vouloir dire, dans certains cas, non pas une traduction de traduction, mais de retourner au texte premier dans sa première langue. Et je le signalais la semaine dernière, une pratique commune est la pratique d'utiliser une traduction, en général dans cette époque en français, pour traduire des textes d'autres langues. Donc de retour à la langue originale, ou bien retour ou utilisation d'une édition dans la langue originale qui paraît plus sûre et plus rigoureuse que celle qui a été précédemment utilisée. Et puis enfin, il peut y avoir cette idée de la modification de l'horizon d'attente des lecteurs, qui serait donc une transformation des catégories intellectuelles ou esthétiques qui ne rencontrent plus dans l'ancienne traduction ce de quoi être satisfaite. On pourrait suivre pour de nombreux pays européens cette histoire des retraductions du Quichotte. Je n'en prends que deux exemples, l'Angleterre et la France. La première retraduction, puisqu'on a, à partir de 1620, la traduction de Shelton de la deuxième partie, la traduction en anglais du Quichotte, c'est cette traduction de Shelton, avec 1612 première partie, 1620 deuxième partie, les deux parties mises ensemble, et c'est elle qui est rééditée au cours du XVIIe siècle. Elle le sera encore au cours du XVIIIe, parce que la retraduction ne signifie pas nécessairement l'abandon ou la disparition de la première traduction. En 1687, John Phillips, qui était un neveu de Milton, retraduit le Quichotte et avec la raison donnée sur la page de titre « Now made English according to the humor of our modern language », maintenant rendu en anglais en en fonction, en rapport avec l'humeur de notre langage ou notre langue moderne. Donc l'idée de moderne s'introduit ici pour marquer la rupture entre la langue utilisée par Shelton, 1612-1620, et cette traduction. Un travail que je n'ai pas fait, mais qui serait intéressant et que peut-être certains ont fait, serait de comparer sur des passages extrêmement précis ce qui serait les modifications, puisque ce serait une indication intéressante, si Phillips dit vrai sur la page de titre, de mutation à l'intérieur d'un répertoire lexical, sémantique ou esthétique. Mais Phillips était habitué de ces retraductions, puisque dans le cours l'année dernière, j'avais évoqué le fait qu'il est celui qui a retraduit en anglais, un peu avant, dans une dizaine d'années auparavant, ou même peut-être plus, 25 ans auparavant, il avait retraduit le livre de Las Casas, La destruction des Indes. Et au cours du XVIIIe siècle, on a de multiples éditions du Quichotte en anglais qui se donnent comme de nouvelles traductions. Et avec souvent sur la page de titre la raison de cette retraduction. En 1700, il y a deux traductions qui sont publiées. L'une de Motteux, et qui est en fait un groupe de traducteurs, puisque le titre, la page de titre dit « Translated from the original by several hands », traduit d'après l'original par plusieurs mains. Et la même année, Stevens publie lui aussi une traduction, mais sur la page de titre, il y est fait référence à la traduction de Shelton, indiquée comme « Revised, corrected and partly new translated from the original », donc corrigée, révisée et pour partie nouvellement traduite à partir de l'original. On insiste sur l'original, donc la référence au texte anglais, mais ici, avec ce qui est en fait une pratique de la traduction et de l'édition, qui très souvent revendique une nouveauté, alors qu'en fait le texte de base est le texte de la traduction précédente. Ce qui est appliqué aux traductions, une pratique de l'édition qui est plus générale, c'est-à-dire la préférence pour composer soit une traduction, soit une réédition à partir du texte déjà là. Ce qui, dans le cas des rééditions, évidemment, permet un travail dans l'atelier typographique beaucoup plus rapide, puisque composé à partir d'un livre imprimé et non pas à partir d'un manuscrit facilite la tâche, même si s'y introduisent des variantes. Et évidemment, pour les traducteurs, il est difficile de se déprendre de la traduction préalable. Les traducteurs modernes, contemporains, sont confrontés à la même question. Donc, on voit en 1700 ces deux traductions. En 1719, une autre traduction de Hosel, qui lui fait référence à Motteux. Donc, de la même manière que Stevens faisait référence à Shelton, Hosel fait référence à Motteux et dit « Carefully revised and compared with the best edition of the original ». Donc, Motteux sert de texte de base, mais il est soigneusement révisé et collationné avec la meilleure édition de l'original, l'idée là d'un déplacement de ce qui est traduit en utilisant « the best », la meilleure édition en castillan disponible. C'est intéressant d'entrer dans ce texte pour voir quelle est cette meilleure édition en castillan qui est supposément ou réellement utilisée par cette traduction. Et puis, on a en 1742 la traduction de Jarvis, « Translated from the original Spanish », et en 1755, la traduction de Smollett, indiqué comme « Translated from the Spanish of Miguel de Cervantes ». Et là, sans doute, pour des basculements de stylistiques, puisqu'en particulier dans le cas de Smollett, il est non seulement traducteur, mais aussi romancier. Et si Cervantes inspire son œuvre de romancier, en même temps, c'est l'esthétique qui gouverne le roman anglais du XVIIIe siècle, depuis Fielding jusqu'à Sterne, qui est une matrice pour s'approprier du Quichotte. Et dans ce sens-là, on peut dire que le Don Quichotte serait un grand roman anglais du XVIIIe siècle, puisque vous voyez qu'il y a cinq traductions entre 1700 et 1755, et que le Don Quichotte a été approprié par Smollett à la fois comme traducteur et comme romancier, mais il est évidemment approprié de manière esthétique à la fois par Fielding et par Sterne dans le Tristram Shandy. Et on voit que l'œuvre de Cervantes sert à la fois de matrice pour la production d'œuvres qui s'inscrivent dans ces inventions esthétiques, par exemple la distance ironique et parodique, le fait de s'être construit comme un anti-roman, le discours en surplomb en permanence dans le texte, qu'on pourrait retrouver d'ailleurs dans, par exemple chez Diderot, dans Le Neveu de Rameau, ou plus encore Jacques le Fataliste. Donc une matrice esthétique pour la production d'œuvres nouvelles, en même temps que le roman anglais des romanciers anglais du XVIIIe siècle transforme l'horizon d'attente des publics et donc du coup oblige à un Don Quichotte qui lui aussi soit transformé. Une sorte de relation dialectique intéressante et qu'on peut prolonger avec le livre de Moretti parce que cette ouverture du roman anglais du XVIIIe siècle de Fielding à Sterne en passant par la figure clé de Smollett, traducteur et romancier, et qui fait que la matrice est une matrice venue d'ailleurs, venue d'un autre temps, le début du XVIIe, et venue d'une autre langue, le castillan, va se disparaître lorsque, au XIXe siècle, on mesure quelle est la part des romans étrangers dans différentes sources, par exemple les catalogues des bibliothèques privées ou bien les catalogues des circulating libraries, de ces bibliothèques où l'on peut emprunter les livres. Et l'on voit qu'à partir de 1790, dans ces bibliothèques, soit privées, soit de prêt, la part des romans étrangers se diminue considérablement, qui serait le temps d'une éclosion plus nationale du roman anglais. Mais avant cette période, commençant en 1790, sans doute en liaison aussi avec les guerres révolutionnaires et napoléoniennes, on a cette large ouverture du monde anglais à tous les genres de la littérature castillane du siècle d'or, non seulement la picaresque, la nouvelle, mais aussi fondamentalement le Quichotte. Dans le cas français, la même analyse des retraductions, puisqu'ici on a un point de départ, en 1614, traduction de César Houdin, deuxième partie, 1618, traduction de François de Rosset, il y a une plus grande résistance de ces deux premières traductions. D'ailleurs, une résistance qui allait jusqu'au fait que, jusqu'avant l'édition relativement récente de la Pléiade dirigée par Jean Canavaggio, des œuvres de Cervantes, qui était du début 2001, c'est la traduction de Houdin et Rosset plus ou moins modernisée qui était le texte de la Vulgate de Quichotte dans la Pléiade. Donc il y a une résistance de très longue durée qui s'explique sans doute parce que les deux retraductions du XVIIe et XVIIIe siècle présentent des particularités fortes et un écart grand par rapport au texte de Cervantes. La première retraduction est de 1677-1678. Elle est due à un janséniste, ou proche des jansénistes, Fillot de Saint-Martin, qui divise le livre en quatre volumes, qui annonce sa traduction comme nécessaire parce que le langage de Houdin et Rosset est un langage vieux et qui aussi considère qu'une des faiblesses de ces traductions anciennes était de rendre mot pour mot le texte original. Donc du coup, il prend de grandes libertés par rapport au texte de Cervantes, qui vont jusqu'à prendre la liberté de ne pas faire mourir Don Quichotte à la fin de la seconde partie, et du coup, de laisser ouvert la possibilité de continuation. Et un autre élément que l'on lit dans le texte de Fillot de Saint-Martin qui précède la traduction, c'est qu'il a abrégé l'œuvre en retranchant ce qu'il appelle des discours ennuyeux, tous ces discours où Don Quichotte, Sancho et les autres discutent de la Commedia et de nombreux thèmes littéraires, entre guillemets, ou philosophiques. Donc, une traduction qui s'éloigne, ce qui pose la question plus générale de la fidélité des traductions. Il y a une tendance naturelle à penser que les traductions sont devenues de plus en plus fidèles au cours du temps, du fait des exigences esthétiques. Ce n'est pas, à mon avis, un diagnostic assuré, puisque, d'une part, on voit que des retraductions, au moins au XVIIe et au XVIIIe, peuvent être plus infidèles que n'était la traduction première, puisque ni Houdin ni Rosset ne se permettent de retrancher des passages ou d'introduire des inventions narratives dans leur traduction. C'est aussi le cas de Shelton, qui est d'une fidélité absolue au texte. Alors qu'on voit dans le cas de Fillot de Saint-Martin une très grande liberté, qui est aussi encore plus grande dans la deuxième retraduction du Quichotte, qui date de 1799, à titre posthume, puisqu'elle est due à Florian, le fabuliste le plus connu après La Fontaine, qui meurt en 1794, et qui retraduit le Quichotte, et avec cet énoncé dans le titre, enfin dans son avis au lecteur. Il condamne chez Cervantes à la fois le fait qu'il a suivi le goût de son siècle, ce qui était normal, mais le goût du XVIIIe siècle n'est plus le goût du XVIIe siècle. Et d'autre part, il y condamne ce qu'il appelle des négligences dans le récit. C'est le moment où on commence à s'apercevoir de certaines incohérences dans le récit. J'ai souvent commenté ici l'incertitude sur le nom de la femme de Sancho Panza, qui a plusieurs noms au fil de la narration. L'épisode fameux de l'âne volé à Sancho, mais néanmoins présent dans le récit avant même que Sancho ne l'ait récupéré. Donc toutes ces incohérences qui étaient liées à une première approche critique du texte de Cervantes sont cumulées par Florian pour dire qu'il faut retraduire. Et comment le fait-il pour ajuster la traduction au goût de son siècle ? Il le fait, dit-il, en adoucissant, là c'est une citation littérale, en adoucissant certaines images, en changeant quelquefois des vers trop éloignés de notre goût, surtout en supprimant les répétitions et en abrégeant des digressions devenues aujourd'hui communes. Enfin, en serrant beaucoup les récits et suppléant par la rapidité à des ornements que je ne pouvais rendre. Ce qui fait que c'est là une version abrégée du texte qui sera la matrice pour les éditions pour enfants du XIXe siècle. On voit donc que là, il y a des écarts pris à l'original qui sont beaucoup plus grands que ceux pris par les premières traductions. Et on voit qu'il y a une tension entre, d'un côté, un respect pour le texte et, d'autre part, une liberté de l'appropriation. Ce serait tout à fait une analyse parallèle qu'on pourrait faire sur les traductions et retraductions des romans picaresques au XVIIe et au XVIIIe siècle. Voilà donc qu'on a un premier ensemble de réflexions sur cette géographie des œuvres dans leur circulation, leur diffusion, leur réception, qui se lie à l'analyse de la circulation de leurs textes, soit dans l'original de leur langue, soit dans les traductions. Mais il me semble, et ça pourrait être un argument de discussion avec la perspective de Moretti, qui s'attache surtout à ce type d'analyse que je viens de faire jusqu'à maintenant, une géographie littéraire, me semble-t-il, ne peut pas se limiter à la seule cartographie ou chronologie des éditions ou des traductions des textes, Elle doit aussi peut-être s'attacher, même si c'est plus difficile, à une géographie et une chronologie de la présence des œuvres dans différentes incarnations qui ne sont pas seulement les éditions ou les traductions de leurs textes. Et j'en prendrai peut-être deux exemples, c'est-à-dire le fait que cette chronologie et cette géographie devraient pouvoir prendre en compte aussi les présences du livre, de sa trame narrative, de ses personnages, de ses intrigues, lorsqu'ils deviennent incarnés, soit à l'intérieur de fêtes carnavalesques ou aristocratiques, soit par des acteurs sur la scène du théâtre. Et c'est une analyse qui peut être riche et qui peut être faite, je l'avais esquissée avec le Quichotte, sans doute un exemple particulièrement riche pour suivre cette présence du livre hors le livre ou de l'œuvre hors ses livres. Mais ce ne serait pas le seul exemple. On pourrait penser évidemment au cours du XVIIIe siècle, avec cette matrice d'ailleurs donnée par Cervantes, à ce qu'il advient de la Nouvelle Héloïse, de Paul et Virginie ou des souffrances du jeune Werther, dont les textes sortent des livres pour s'incarner dans des modes vestimentaires, des objets matériels, des représentations de théâtre. Commençant évidemment cette série du XVIIIe siècle avec les romans de Richardson, Pamela et Clarissa. Alors revenons au Quichotte. Une première carte qui serait intéressante serait la carte de l'emploi de personnages et donc implicitement d'intrigues du Quichotte dans des fêtes aristocratiques, des fêtes populaires ou des fêtes religieuses. J'avais commencé à faire cette chronologie qui peut se transformer en cartographie avec le cas des 20 premières années du XVIIe siècle. Et la série, de manière intéressante, commencerait avec le monde colonial, avec un tournoi, une joute, qui est organisé dans une toute petite bourgade ou cité du Pérou, qui s'appelle Pausas, et où le corregidor, l'administrateur de cette ville, veut faire organiser une fête pour célébrer la nomination d'un nouveau vice-roi au Pérou. Et la ville de Pausas était la capitale, ou Pausa, sans S, Pausa, P-A-U-S-A, était la capitale de la province de Parinacochas. Et il a l'idée d'organiser un tournoi, ce que l'on appelle una fiesta de sortija, en gros, ce n'est pas un tournoi où les cavaliers s'affrontent, mais où, avec une lance, ils doivent pouvoir la passer dans un anneau qui est suspendu à une certaine distance de la carrière dans laquelle ils sont montés à cheval. Et pour que la fête soit plaisante, le thème est que les différents participants doivent apparaître vêtus comme les chevaliers des romans de chevalerie. Et du coup, on voit que lui, il apparaît, le corregidor, comme le chevalier de l'épée ardente, qui était un des surnoms d'Amadis de Grèce. Et puis ensuite, il concourt, après cette présentation du tournoi sous ses identité, comme Bradaleon. Et d'autres apparaissent comme le Caballero Antarctico, et je cite la relation de la fête de Paosa, avec une compagnie de plus de 100 Indiens. Un autre, El Caballero de la Selva, le chevalier de la forêt, avec 4 sauvages couverts de lierre et plus de 80 jeunes filles du pays, fort galamment vêtues de combis, damas et taffetas de couleur. Le Caballero Venturoso, lui, arrive avec, je cite, un habit très ajusté, violet, orné de roses jaunes et un masque de la même couleur. Finalement, Dudado Furibundo apparaît en habit de maure, avec 7 maures à cheval, donc 7 musulmanes, joliment parées, toutes masquées, qui représentait ses épouses. Il y a donc tout le répertoire des romans de chevalerie de la fin du Moyen-Âge publiés au XVIe siècle qui est utilisé par ces petits nobles ou ces officiers qui se trouvent à Paosa pour apparaître ainsi déguisés dans le tournoi. Et l'un décide d'y apparaître d'une autre manière. Il s'appelle Don Luis de Cordova, mais qui est dans ce royaume connu sous le nom de Luis de Galvez, et il choisit comme héros Don Quichotte de la Manche. Et il entre sur la place comme le Caballero de la triste figura Don Quixote de la Mancha, tan natural y proprio de como lo pintan en su libro, aussi exactement qu'il est peint dans son livre. Alors l'analyse peut aller dans le sens de repérer comment, en 1607, à Paosa, pouvait être déjà connu le texte de Cervantes publié au cours de l'année 1605, ce qui renvoie à toutes les études anciennes ou modernes sur le commerce du livre espagnol dans le monde des deux grandes colonies, Mexique et Pérou, ce qui renvoie aussi de manière plus précise à suivre des envois de Don Quichotte, de livres de Don Quichotte par des libraires d'Espagne jusqu'au Pérou. Et on peut suivre, par exemple, très clairement la trajectoire de Don Quichotte qui ont été envoyés par un libraire de Alcalá de Henares, Juan de Sarria, à son fils, à Lima. Et c'est de cette série de Don Quichotte que certains sont envoyés depuis Lima jusqu'à la ville de Cusco, et Paosa se trouve sur le chemin entre Lima et Paosa. Et donc, on peut penser que Luis de Cordoba avait lu un de ces Don Quichotte et a eu l'idée d'entrer dans ce tournoi, non pas comme un des cavaliers de la tradition, mais comme chevalier de la tradition, mais avec ce nouveau déguisement. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est le fait qu'il apparaît à la fois, comme dit la relation, comme il est peint dans son livre, mais en fait de manière extrêmement différente de ce qui est la description de Don Quichotte par Cervantes, puisqu'il apparaît, je cite le texte en traduisant, avec un casque orné de plumes, avec une fraise, et donc un costume qui n'a rien à voir avec la manière dont Don Quichotte est dépeint dans le roman, mais qui a beaucoup à voir avec, comme l'a montré notre collègue Pedro Catedra, avec les costumes des nobles participants dans des fêtes aristocratiques et des tournois aristocratiques à dimension parodique depuis le XVIe siècle. Et le Don Quichotte du Pérou apparaît avec son écuyer, Sancho, le curé, le barbier, et puis l'infante Micomicona, qui est un des déguisements pris par Dorothea, une des héroïnes d'une intrigue de nouvelle à l'intérieur de l'histoire du Quichotte, qui est celle auquel on s'était intéressé dans les premiers cours de cet enseignement, dans les cours sur la nouvelle amoureuse de Dorothea et Fernando, et Cardenio et Lucinda. Et c'est lui qui gagne le prix, puisque pour l'exactitude de sa représentation et le rire général qu'elle a suscité, le prix va à ce Don Quichotte. On voit qu'il y a là une fête évidemment extrêmement intéressante, puisque, comme vous l'avez vu, c'est comme une sorte de, entendu, c'est comme une sorte de rassemblement de tout ce qui est l'Empire espagnol. Il y a à la fois de vraies élites, petites élites de cette petite ville de Paosa qui assistent au tournoi. Il y a les officiers ou les nobles déguisés en chevaliers de romans de chevalerie. Il y a de faux maures, comme celui que je mentionnais, accompagné de ses sept épouses. Et il y a de véritables Indiens qui sont aussi mobilisés à l'intérieur de cette fête. Il y a donc toute une dimension, on pourrait dire, politique et sociale de la fête de Paosa, mais je n'en retiens ici que le fait qu'elle serait une des premières dates sur une géographie de la circulation du Quichotte au-delà de la géographie de la circulation des exemplaires, des éditions de Don Quichotte. L'année suivante, en 1608, en Espagne, dans la ville de Tudela del Duero, il y a une corrida qui a lieu pour fêter le fait que cette ville a été incorporée dans les domaines du ministre principal de Philippe III, le duc de Lerma, et on inclut dans cette fête les aventures du caballero Don Quixote. La troisième date qui m'apparaît intéressante, c'est 1610, parce que là, on a une autre modalité qui est le fait que dans ce cas, il s'agit d'une fête à Salamanque et qui a une raison religieuse, c'est la béatification de Ignace de Loyola. Et la fête dure durant 8 jours, d'un dimanche à un autre dimanche, et le dernier jour de cette fête, il y a un cortège et organisé par les étudiants de l'université de Salamanque. Alors, le cortège est ouvert par une allégorie, un char qui représente Vulcain, qui forge des éclairs pour Jupiter et qui est accompagné de Mars. Et la relation dit, cela signifiait les fils de la compagnie de Jésus, et tout faisait référence au saint de manière fort appropriée. Donc, une allégorie de la diffusion universelle de la compagnie de Jésus à travers ces figures de la mythologie. Mais derrière ce char de Vulcain apparaissait une mascarade comique à la manière picaresque, à la picaresca, et qui était menée par un cavalier qui portait sur un étendard un placard où on avait écrit « Le triomphe de Don Quichotte ». Et du coup, le chevalier errant apparaît dans ce cortège avec Sancho Panza, avec Dulciné et chacun et d'autres écuyers qui portaient des images peintes qui représentaient des exploits de Don Quichotte tels qu'ils sont narrés par Cervantes. Et le cortège finissait par une multitude d'autres figures, par exemple un cavalier qui chevauchait sa monture à l'envers, ou bien un cavalier transformé en sauvage. Et donc, c'était lié la présence de Don Quichotte avec, d'un côté, des motifs carnavalesques traditionnels, l'homme sauvage, qui devient dans ce cas-là exotique, la monte à l'envers, qui était si célèbre, enfin si fameuse dans le cas des charivari, avec aussi, pour un autre côté, une célébration religieuse, la béatification de Ignace de Loyola et la glorification du triomphe de la compagnie de Jésus. L'invention des étudiants de Salamanque, dans ce cas-là, était un peu comme à Paosa, d'utiliser le roman, mais pour vêtir les personnages, Don Quichotte, Sancho, avec des costumes extravagants qui ne doivent rien aux descriptions de Cervantes. Et le rire provient d'une préconnaissance, évidemment, du Don Quichotte. La relation dit que les spectateurs ont été très réjouis par cette mascarade à lo picaresco, mais surtout lorsque habían leído su libro, ceux qui avaient lu son livre. Et donc, du coup, le plaisir, là, vient à la fois de la reconnaissance du livre dans son incarnation et en même temps des distances possibles prises par la mise en fête par rapport à ce qui est la littéralité du texte de Cervantes. Et la justification de la relation est de considérer qu'il y avait là comme un entremesse, un moment de respiration ou de diversion à l'intérieur d'une fête religieuse qui avait duré toute la semaine précédente et qui avait été marquée par la grande messe du premier dimanche, par un cortège triomphal du lundi qui montrait l'assujettissement des 4 parties du monde à la prédication d'Ignace de Loyola, ou encore le samedi, le jour précédent cette mascarade des étudiants, une oraison qui avait attiré une foule considérable. L'intéressant est de voir que cette alliance entre le carnavalesque et le religieux, et un carnavalesque qui va introduire massivement la présence de Don Quichotte, se répète en 1614 à Saragosse, 1615 Cordoue, 1617 Séville, 1618 Baeza et Utrera, et chaque fois pour des fêtes qui sont en soit, comme à Salamanque en 1610, béatification d'Ignace de Loyola, soit béatification de Thérèse d'Ávila. Cette association, qui nous paraît surprenante, est un modèle qui est suivi très régulièrement, et non seulement dans les villes espagnoles, mais même exporté, puisque ma série s'arrêterait en 1621, elle pourrait être poursuivie ensuite, lorsque à Mexico, les artisans de la Plateria Real décident d'introduire Don Quichotte avec d'autres chevaliers de littérature dans une fête de béatification, dans ce cas-là de San Isidro. On a là donc une incarnation. Et on peut penser qu'en parallèle avec ces incarnations espagnoles de Pausa, de Tudela del Duero, de toutes les fêtes ignatiennes ou thérésiennes, et finalement avec cette double dimension de la métropole et de la colonie, la série que j'ai tracée commence au Pérou et se termine à Mexico, il y a des parallèles dans le cadre de fêtes en Allemagne. Et ce qui est tout à fait intéressant, puisque, comme je l'ai dit, la première traduction du Quichotte n'est que de 1648. Or, en 1613, on a deux fêtes avec cortège, l'une dans la ville de Heidelberg pour le mariage du prince palatin du Rhin avec la fille du roi d'Angleterre, et la deuxième dans la ville de Dessau pour le baptême du fils du prince de Anhalt. Dans les deux cas, présence de Don Quichotte, dans le cas d'Heidelberg, à travers un cartel par lequel Don Quichotte défie tous les pères, tous ses pères en chevalerie, et dans le cas de Dessau, mieux connu parce qu'il y a une gravure qui a été publiée l'année suivante, en 1614, et qui représente le cortège, on voit qu'il y a là un cortège ouvert par le nain que rencontre Don Quichotte à l'auberge de Juan Palomeque lors de la première sortie, puis le curé, le barbier, Dulcinea del Toboso, l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, chevalier de la triste figure, et là encore, avec une large fresque et un casque très profusément empanaché. Donc il y a cette tradition qui se maintient d'un Don Quichotte de parodie aristocratique à l'intérieur de l'utilisation de la première partie du Don Quichotte pour les fêtes, et la première partie où il n'est pas décrit sous ce costume. Et ferme la marche, Marie Thorne, la fille de l'auberge. Et ce cortège devient cortège en images en 1614. Donc on a là une première série d'incarnations, mais je vais peut-être, comme on le fait à l'ordinaire, si vous le souhaitez, faire une petite pause de 5 minutes, il est 11h03, avant de terminer cet aspect et d'entrer avec des cartes que l'on verra sur l'écran dans une autre perspective qui est celle de la carte à l'intérieur de la fiction. On peut peut-être prendre un petit repos jusqu'à 11h10.